Bonjour à toutes et à tous. Je vous salue en particulier ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Alors c'est un plaisir d'être ici parmi vous ce matin. Alors comme vous l'aurez peut-être remarqué, par rapport à la dernière fois, je suis venu avec ma petite famille. Donc j'ai deux enfants là maintenant qui sont à l'école du dimanche, mais il y a mon épouse là-bas avec la petite dernière Juliana qui a 5 mois. Donc c'est un plaisir pour nous d'être avec vous ce matin pour continuer et terminer, si j'ai bien compris, un parcours dans le livre d'Esther. Ce matin, nous verrons les chapitres 9 à 10. Il y a quelques mois, avec l'IBB, j'ai eu l'occasion de visiter le musée Bellevue. C'était une première pour moi, je pense que vous le connaissez mieux que moi, qui est un musée sur la Belgique et sur son histoire. Et la salle qui m'a le plus intéressé dans ce musée, c'était celle qui était en rapport avec la religion. En tant qu'étudiant en théologie, ce n'est pas si surprenant, n'est-ce pas ? Mais ce qui m'a particulièrement attiré l'attention, c'est une pancarte qui était intitulée « Le déclin de la foi ». Le déclin de la foi. Et sur cette pancarte, plusieurs dates étaient affichées et qui renseignaient des renversements majeurs dans certaines valeurs qui autrefois étaient des convictions, on va dire, héritées du christianisme. Voici quelques exemples. Certaines dates qui étaient notées, par exemple, 1990, légalisation de l'avortement sous strictes conditions. 1994, facilitation du divorce. 2003, loi sur le mariage homosexuel. 2022, le travail du sexe, la prostitution, est décriminalisé. Et ces renversements majeurs qui se produisent dans notre société, pour nous, en tant que chrétiens, il pourrait nous paraître inquiétant, voire même menaçant. On a peut-être l'impression que l'étau se resserre sur nous et que c'est de plus en plus difficile, en tant que chrétiens, de tenir certaines convictions qui, dans notre société, sont jugées comme rétrogrades, comme archaïques. Et n'ayons pas peur de le dire, notre société qui, bien qu'elle se veut tolérante, inclusive, elle veut se débarrasser de plus en plus de l'idée de Dieu et des rétrogrades tels que nous le sommes. Cherchez l'erreur. Et alors que nous constatons ces changements autour de nous, qui vont à l'opposé des valeurs dites traditionnelles, on peut se demander si on n'est pas en train d'être sur le déclin, de perdre la bataille dans la société. Et cette impression que nous pourrions avoir peut-être nous conduit à nous résigner, à plonger dans le défaitisme. Et peut-être qu'on se pose la question, mais alors, à quoi bon, en fait, en tant que chrétien, aller à l'église, m'investir, si j'ai l'impression qu'en fait, l'étau se resserre et qu'on est de moins en moins accepté ? À quoi bon instruire mes enfants de la foi chrétienne si cette même foi sera pour eux peut-être une cause d'oppression, une cause d'insulte, de moquerie ? Plus tard, ou même juste à l'école. À quoi bon, en tant que chrétien, témoigner à mon travail si ça va me valoir également des moqueries, peut-être des insultes, ou même un licenciement ? À quoi bon ? Et peut-être que ces constats peuvent vous mener à vous demander, mais où est Dieu dans tout ça ? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il est absent ? Existe-t-il vraiment ? Et là, en plus du défaitisme, en plus de se résigner, on tombe dans la crainte. Cette crainte qui perçoit le monde extérieur comme une menace à notre existence. Monde duquel Dieu semble être absent. Mais est-ce vraiment le cas ? Lors du parcours du livre d'Esther, vous aurez peut-être remarqué que Dieu n'est pas mentionné une seule fois dans ce livre. Comme s'il était absent. Et pourtant, comme nous le verrons, peut-être comme vous l'aviez déjà vu, c'est bien l'opposé que ce livre enseigne. Non seulement Dieu, il est là, mais notre passage nous montrera que le peuple de Dieu n'a pas à se résigner au défaitisme, car Dieu lui donne la victoire. Le texte qu'on verra ce matin nous montrera que le peuple de Dieu n'a pas à sombrer dans la crainte parce que Dieu est le maître de l'histoire. Donc c'est la vérité centrale de ce matin, que nous avons la victoire, car Dieu est le maître de l'histoire. C'est également les deux points que nous verrons. Mais je vous invite à prendre votre Bible, si vous l'avez, et nous allons lire ensemble les deux derniers chapitres du livre d'Esther, les chapitres 9 et 10. Donc les chapitres 9 et 10 du livre d'Esther. Le 13e jour du 12e mois, le mois d'Adar, quand l'ordre et l'édit du roi devaient entrer en vigueur, le jour où les ennemis des Juifs espéraient se rendre maîtres d'eux, il y eut un retournement de situation. Ce sont les Juifs qui se rendirent maîtres de ceux qui les détestaient. Dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Xerxès, les Juifs se rassemblèrent pour porter la main sur ceux qui cherchaient leur malheur. Personne ne put tenir devant eux, car la frayeur des Juifs s'était abattue sur tous les peuples. Tous les princes des provinces, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs, car la frayeur de Mardochée s'était abattue sur eux. En effet, Mardochée était devenu un homme important dans la maison du roi. Sa renommée se répandait dans toutes les provinces, car c'était un homme de plus en plus important. Ainsi, les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée. Ils les tuèrent, ils les firent disparaître. Ils traitèrent à leur gré ceux qui les détestaient. Rien qu'à Suse, la citadelle, les Juifs tuèrent, ils firent disparaître 500 hommes. Et Parchandata, et Dalphon, et Aspata, et Porata, et Adalia, et Aridata, et Armashta, et Arizai, et Aridai, et Zaizata, les 10 fils de Haman, fils de Hammedata, adversaires des Juifs, furent tués. Mais on ne porta pas la main sur le butin. Le jour même, le nombre de ceux qui avaient été tués à Suse, la citadelle, parvint au roi. Le roi dit à la reine Esther, « À Suse, la citadelle, les Juifs ont tué. Ils ont fait disparaître 500 hommes et les 10 fils de Haman. Que n'auront-ils pas fait dans le reste des provinces royales ? Mais quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Quelle est encore ta requête ? Elle sera exaucée. » Esther répondit, « Si cela te semble bon, ô roi, qu'il soit permis aux Juifs de Suse d'agir demain comme aujourd'hui et qu'on pende les 10 fils de Haman à la potence. » Le roi dit de faire ainsi. On publia l'édit à Suse et les 10 fils de Haman furent pendus. Les Juifs de Suse se rassemblèrent donc aussi le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent 300 hommes. Mais ils ne portèrent pas la main sur le butin. Les autres Juifs, ceux des provinces royales, se rassemblèrent pour défendre leur vie et se débarrasser de leurs ennemis. Ils tuèrent 75 000 de ceux qui les détestaient. Mais ils ne portèrent pas la main sur le butin. Le 13e jour du mois d'Adar. En repos, le 14e jour, ils en firent un jour de banquet et de joie. Quant aux Juifs de Suse, ils se rassemblèrent le 13e et le 14e, en repos le 15. Ils en firent un jour de banquet et de joie. C'est pourquoi les Juifs des campagnes, ceux qui habitent des villes sans murailles, font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de banquet et de fêtes, où chacun envoie des cadeaux à son voisin. Mardochée écrivit cela dans des lettres qu'il envoya à tous les Juifs de toutes les provinces du roi Xerxès, proches et lointaines, pour qu'ils observent l'institution du 14e jour du mois d'Adar, ainsi que du 15e, d'année en année. À l'exemple de ces journées où les Juifs s'étaient débarrassés de leurs ennemis, en ce mois où leur chagrin s'était changé en joie et leur deuil en fête, ils devaient en faire des jours de banquet et de joie, où chacun envoie des cadeaux à son voisin et fait des dons aux pauvres. Les Juifs firent une tradition de leur célébration initiale et de ce que Mardochée leur avait écrit. Car Haman, fils de Hammedata, l'Agagite, adversaire de tous les Juifs, avait conçu le plan de faire disparaître les Juifs. Il avait tiré le pour, c'est-à-dire le sort, pour les frapper de panique et les faire disparaître. Mais lorsque l'affaire fut présentée devant le roi, celui-ci ordonna par écrit que le plan funeste qu'il a conçu contre les Juifs retombe sur sa tête, qu'on le pende à la potence ainsi que ses fils. C'est pourquoi on a appelé ces jours Pourim, d'après le nom du pour. Ainsi, à cause de tout ce que disait cette lettre, de ce qu'ils avaient vu et de ce qui leur était arrivé, les Juifs instituèrent une tradition irrévocable pour eux, pour leur descendance et pour ceux qui se joindraient à eux. On célébrerait ces deux jours selon ce qui est écrit au temps fixé, d'année en année. Ces jours seraient commémorés et célébrés de génération en génération, dans chaque clan, dans chaque province, dans chaque ville. Ces jours des Pourim sont irrévocables parmi les Juifs. Leur commémoration ne se perdra pas dans leur descendance. La reine Esther, fille d'Abihail, et le Juif Mardoché écrivirent avec toute leur autorité afin de confirmer cette seconde lettre des Pourim. À tous les Juifs des 127 provinces du royaume de Xerxès, on envoya des lettres, messages de paix et de loyauté, pour instituer ces jours des Pourim à leur date, comme le Juif Mardoché et la reine Esther les avaient institués, comme ils les avaient institués pour eux-mêmes et pour leur descendance, des jours de jeûne et de lamentation. L'histoire d'Esther institue le rituel des Pourim, c'est pourquoi elle est écrite dans ce livre. Le roi Xerxès frappa d'un impôt le pays et les îles de la mer. Tout le récit de sa puissance et de sa vaillance, ainsi que le détail de l'élévation de Mardoché par le roi, tout cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Médie et de Perse, car le juif Mardoché occupait le second rang après le roi Xerxès. C'était le grand homme des Juifs qui avait la faveur de la multitude de ses frères. Il cherchait le bien de son peuple et parlait pour la paix de tous les siens. Jusqu'ici notre lecture. Dans le premier point que nous allons voir ce matin, c'est la victoire du peuple de Dieu. Et comme nous venons de le lire, à ce moment du récit, c'est le moment d'en découdre. L'édit, le décret de Haman concernant la destruction des Juifs entre en vigueur. Les ennemis se sont préparés, ont préparé leurs armes, ont peaufiné leur plan d'attaque. Et les Juifs aussi, quant à eux, se préparent, ils se tiennent prêts grâce au décret de Mardoché, leur permettant de se défendre et de tuer leurs ennemis. L'enjeu est énorme, comme on l'a vu. La survie pure et simple du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Mais en réalité, le véritable enjeu de ce livre se trouve autre part. Et il est bien plus important. Le véritable enjeu de ce livre, c'est la fidélité de Dieu. Comme on vient de le lire et comme vous l'avez médité pendant tout ce parcours sur Esther, l'enjeu principal qui ressort, ou l'enjeu explicite qui ressort de ce livre, c'est la survie d'un peuple, la survie du peuple juif. Mais l'enjeu implicite est bien plus important. Est-ce que Dieu va tenir ses promesses? Rappelez-vous, Dieu avait libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, conformément aux promesses qu'il avait faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ensuite, Dieu et Israël ont conclu une alliance au mont Sinaï. Dieu demeurerait parmi son peuple si le peuple d'Israël lui obéissait. Mais comme vous le savez, le peuple d'Israël a été incapable d'obéir à Dieu. Il s'est détourné vers les idoles. Dieu a alors envoyé des messagers, les prophètes, qui ont averti que le jugement allait venir, que l'exil allait venir sur ce peuple. Mais en même temps, les prophètes ont aussi annoncé le rétablissement de la situation. Une période par-delà l'exil où Dieu allait sauver son peuple. Là où nous en sommes dans le livre d'Esther, ces Juifs-là, ils sont en exil. Et bien que certains soient déjà rentrés dans le pays d'Israël, on est toujours en attente de la réalisation de ces promesses de restauration. Et maintenant, elles sont menacées par l'extermination du peuple juif. Mais comme nous l'avons vu au tout premier verset du chapitre 9, il y a un retournement de situation. Ce sont les Juifs qui se rendirent maîtres de ceux qui les détestaient. Et on voit que c'est le peuple de Dieu qui remporte la victoire. On pourrait intituler ce chapitre « Les païens attaquent et les juifs contre-attaquent ». Deux épisodes. Le premier, les 11 premiers versets. Assus d'abord à la capitale, 500 morts parmi les assaillants, zéro mort parmi les juifs, au verset 6. Et ensuite, les 10 fils de Haman, Haman celui qui avait conçu ce plan d'extermination, les 10 fils d'Haman sont tués, au verset 7 et 10. Et on lit un peu plus loin que dans toutes les provinces de cet empire gigantesque allant de la Turquie jusqu'à l'Inde, 75 000 morts parmi ceux qui attaquaient les juifs. Et ça ne s'arrête pas là. Deuxième épisode, au verset 12 jusqu'à 19, on remet le couvert à Suse le lendemain et on a 300 morts parmi les attaquants. Et on ne se contente pas de la mort des 10 fils de Haman, mais on les pend. Qu'est-ce que ça ajoute de les pendre alors qu'ils sont déjà morts? Eh bien, la pendaison, c'est signe de la malédiction divine. On pourrait dire que Dieu leur a donné la victoire vraiment jusqu'au bout, qu'il a humilié jusqu'au bout les ennemis du peuple de Dieu. La victoire appartient au peuple de Dieu. Et pour commémorer cette grande victoire, Mardoché instaure cette fête des Pourim. Et nous avons lu à la fin du livre, il nous a dit que ce livre était écrit pour nous expliquer pourquoi la fête des Pourim a été instaurée. Mardoché, le héros des Juifs, qu'on peut le voir dans ce livre, également avec Esther, institue cette fête qui commémore la fois où le deuil, la tristesse et le jeûne ont été changés en joie, en fête et en festin. Et le livre se termine sur Mardoché, qui occupe la seconde place après le roi Xerxès. Mardoché, un grand personnage qui est respecté parmi les siens et qui cherche le bien et la paix de son peuple. Et voilà comment se termine le livre d'Esther. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous, cette histoire? Eh bien, ça a à voir que l'histoire de la Bible, elle ne s'arrête pas à la fin d'Esther, mes amis. Parce que si la Bible nous enseigne une chose, c'est que les promesses de Dieu s'accomplissent en une personne. Cette personne qui provient de ce peuple qui autrefois était menacé, mais à qui Dieu a donné la victoire. Cette personne en qui toutes les promesses de Dieu sont accomplies, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Cette personne, c'est le roi qui était promis. C'est celui qui devait faire en sorte que le peuple de Dieu puisse vivre une relation parfaite avec Dieu. Et cela, mes amis, il peut le faire parce que lui règle le problème du péché une fois pour toutes. À cause de notre cœur rebelle, à cause de notre péché, on ne peut pas vivre avec Dieu, mais nous méritons uniquement sa condamnation. Mais parce que Christ, Dieu le Fils fait homme, par son obéissance parfaite et par sa mort sur la croix, il peut prendre les péchés de tous ceux qui se confient en lui. Et voilà comment Dieu enlève la colère qui pèse sur nous, la condamnation qui pèse sur nous pour tous ceux qui trouvent refuge en son Fils. Et voilà comment Dieu accomplit ses promesses d'avoir un peuple qui puisse être avec lui. Voilà comment Dieu se montre être le Dieu juste, qui ne tolère pas le péché, mais le Dieu plein de grâce et d'amour qui veut vivre avec son peuple. Et en Christ, mes amis, on a vraiment cette vraie victoire, bien plus grande que ce qu'on vient de lire en Esther. Parce que grâce à Christ, on a la victoire sur le péché. Christ nous libère de la condamnation qui pèse sur chacun de nous. Christ donne à tous ceux qui lui font confiance également la victoire sur le diable qui nous accuse à cause de notre péché, mais Christ enlève la condamnation qui est sur nous, de sorte que le diable n'a plus à nous accuser. Et enfin, la victoire sur le dernier ennemi, cet ennemi dont nous attendons encore la défaite, mais dont la défaite sera certaine la mort. Et Christ, lui, a vaincu la mort. Et c'est ça que nous célébrerons à Pâques, que Christ n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité d'entre les morts. Et il nous montre quelle sera la destinée de tous ceux et celles qui se confient en Christ. La mort n'aura pas le dernier mot, mais la vie sera pour tous ceux qui se confient en lui. Mais n'est-il pas vrai que parfois nos vies ressemblent plus à celles du peuple juif menacé d'extermination par le décret de Haman, plutôt qu'à celles du peuple victorieux grâce au décret de Mardoché? N'est-il pas vrai que parfois nous tombons plus dans le désespoir et dans le défaitisme? On a l'impression que le seul décret qui régit nos vies, c'est celui du diable, c'est celui dans lequel le péché, les souffrances et la condamnation nous attendent. Et nous oublions, n'est-ce pas, ce merveilleux décret du Christ par lequel il déclare que quiconque se réfugie en lui a la vie, le pardon, la réconciliation avec Dieu et la vie éternelle. La vraie victoire. Hirohiro Onoda, c'était un soldat japonais durant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait été envoyé sur une île des Philippines pour mener une guerre de guérilla contre les Américains. Un peu comme les Iraniens aujourd'hui, en fait. Et il avait reçu l'ordre de ne jamais se rendre et d'attendre qu'on vienne le chercher. Alors, lorsque le Japon a capitulé en août 1945, Onoda, il a refusé d'y croire. Il pensait que c'était un mensonge, en fait, pour qu'il puisse être attrapé. Et alors, pendant 30 ans, sur son île, il reste dans la jungle à combattre un ennemi imaginaire, alors que la guerre, elle, est bel et bien terminée. Et il a fallu attendre, en fait, que 30 ans plus tard, son supérieur hiérarchique de l'époque vienne en personne lui dire que c'était terminé. Imaginez quel désespoir cet homme a dû ressentir, en sachant que pendant 30 ans, alors que la guerre était terminée, lui, il combattait encore dans la jungle. Et parfois, je me demande si on ne vit pas un peu comme ce soldat japonais. Nous oublions, ou peut-être que nous refusons de croire que Christ a réellement remporté la victoire. Alors évidemment, mes amis, ça ne veut pas dire, loin de là, que notre vie présente dans ce monde déchu sera facile et sans souffrance. Absolument pas. Mais ce que ça veut dire, c'est que nous pouvons vraiment rejeter le défaitisme et nous confier dans les promesses de Dieu. Vous connaissez ces paroles. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En Romains 8, 37. Et dans ce texte, il parle que nous sommes plus que vainqueurs, même parmi les persécutions, même parmi la mort, les insultes. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que rien ne pourra nous arracher des mains du Christ. Parce que rien ne pourra nous enlever cette vie éternelle que Christ donne à tous ceux qui se confient en lui. Et comme Dieu a montré sa fidélité à son peuple, nous, aujourd'hui, nous n'avons pas à sombrer dans le défaitisme. Si Christ nous a dit « Je reviens bientôt », c'est qu'il va revenir, mes amis. Alors, ayons confiance dans les promesses de Dieu. Notre deuxième point ce matin, parlerons de Dieu qui est le maître de l'histoire. Alors j'ai beaucoup parlé de Dieu, n'est-ce pas, ce matin, et c'est une bonne chose. On est là pour ça, n'est-ce pas, entendre parler de Dieu, de qui il est. Mais pourquoi est-ce qu'on peut parler autant de Dieu alors que le livre d'Esther n'en parle même pas? Pas une seule fois une mention de Dieu. Et même quand Esther et ses servantes, elles jeûnent, au chapitre 4, il n'est même pas fait mention de prière. Pourquoi ce silence dans le livre d'Esther? Mais d'un côté, le livre d'Esther, il est très réaliste, n'est-ce pas? Personnellement, le matin, quand je me lève, j'entends pas Dieu me parler et me dire « Bonjour Damien, comment ça va ?» Non. Quand je sors dans la rue, que je regarde le ciel, je ne vois pas un ange qui passe et qui me parle et qui me rappelle combien Dieu m'aime et que tout va bien se passer. Non. Pourtant, j'aimerais bien. On aimerait bien, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, on a l'impression que parfois, Dieu, il est absent. Et on a ce désir en nous-mêmes. On voudrait bien qu'il se montre plus à nous. On voudrait sentir qu'il est là. En tant que parent, j'ai le privilège d'avoir des enfants merveilleux, dont un garçon de 6 ans qui, je ne sais pas pourquoi, il attend la fin de la journée avant de me raconter un peu tout ce qui s'est passé et de me poser tout un tas de questions sur tout et n'importe quoi. À la fin de la journée, quand il est dans son lit, quand je suis bien fatigué et que j'aimerais bien aussi aller me reposer. Mais un jour, il m'a posé une question, ou plutôt il m'a partagé cette réflexion. Il a dit... « Tu sais, papa, j'ai demandé à Dieu pour qu'il se montre à moi, mais je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas. » Alors, bonne chance pour répondre à ça, n'est-ce pas? Mais ce qu'il disait avec ces mots, je pense, ça reflète bien ce que nous avons tous au fond du cœur. C'est qu'on voudrait voir Dieu. On voudrait sentir qu'il est là à nos côtés. Et à cet égard, le livre d'Esther, il est assez réaliste. Comme si Dieu n'était pas là, en fait. Et pourtant, si d'une part le livre d'Esther, il reflète cette impression d'absence de Dieu dans nos vies, il me semble que ce silence sur Dieu et le silence de Dieu nous enseignent complètement autre chose. Que ce n'est pas que Dieu n'est pas là et qu'il n'existe pas, mais bien au contraire, qu'il est là. Un commentateur a dit qu'on a le sentiment que l'auteur du livre d'Esther, il a fait exprès de faire toute référence à Dieu pour faire éprouver à ses lecteurs le poids de sa présence. Comme si on avait envie de dire, mais c'est Dieu là en fait qui est là. C'est Dieu qui fait ça. Et quand on y réfléchit, il semble qu'il y ait un peu trop de hasard dans ce livre, n'est-ce pas? Quelle chance, n'est-ce pas, pour les Juifs que Esther soit si séduisante. Quelle chance qu'elle ait été choisie parmi peut-être des centaines d'autres candidates. Quelle chance que Mardochée ait eu connaissance du projet d'assassinat du roi. Et quelle chance que l'affaire ait été consignée dans les annales royales. Quelle chance que le roi n'ait pas pu dormir un soir. Et quelle chance qu'il ait demandé à ce qu'on lui lise les annales. Et quelle chance que le scribe qui lui faisait la lecture a précisément lu ce récit datant de plusieurs années dans lequel Mardochée est impliqué. Et quelle chance que le roi ait été suffisamment éveillé à ce moment-là pour demander s'il avait récompensé Mardochée. Quel heureux hasard, n'est-ce pas? Non, en fait non, il n'y a pas de hasard dans tout ça. Ce que ce livre veut nous montrer, c'est que Dieu est maître de l'histoire. Et pas seulement que Dieu est au contrôle des grands événements, des grandes choses qui se passent dans le monde, mais même des petits événements qui nous paraissent insignifiants. Comme le fait d'écrire quelque chose dans un livre, comme une insomnie, ou une lecture d'archives a priori bien ennuyeuse. Dieu est dans tous ces événements, petits ou grands, pour mener à bien son plan de salut. Ce qu'on appelle la providence de Dieu. Et vous connaissez très certainement également ce texte qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est le maître de l'histoire. Et donc, quand les choses nous paraissent complètement hors de contrôle, quand les bombes pleuvent en Iran, en Ukraine et ailleurs, Dieu est au contrôle. Quand nos vies sont chamboulées par tout un tas d'imprévus, par même des tragédies, quand on perd un emploi, quand on tombe malade, quand on perd un proche, et pourtant, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de tous les petits événements de nos vies qui nous paraissent insignifiants. Et toutes ces choses concourent à notre bien ultime. Et donc, si vous avez succombé à la crainte dans ce monde qui semble partir dans tous les sens, qui semble totalement chaotique, rappelons-nous comment Dieu le maître de l'histoire, a dirigé toutes choses pour que le Sauveur promis vienne sur cette terre comme il l'avait promis. La mort et la résurrection de Jésus ne sont pas les mythes d'une religion, mais des événements réels dont Dieu avait parlé par avance et qu'il a amené à leur réalisation. Et ce n'est pas juste l'histoire qui est entre les mains de Dieu. C'est vous-même qui avez placé votre foi en Christ. Vous êtes entre les mains de Dieu de l'histoire. Notre Seigneur Jésus a dit en Jean 10, verset 28, que nous ne nous perdrons jamais parce que personne ne pourra nous arracher de sa main. Personne ne pourra nous arracher de sa main. Nous sommes en sécurité entre les mains du Dieu de l'histoire. Et pour conclure ce matin, rappelons-nous que nous avons la victoire, la vraie victoire, parce que Dieu est le maître de l'histoire. Et aujourd'hui, on est un peu comme le peuple d'Israël à cette époque-là, n'est-ce pas ? Nous sommes dispersés un peu partout dans le monde, comme en exil finalement, en attendant d'être ramenés vers notre vraie maison, notre vrai pays, la nouvelle création qui vient. Et alors que nous sommes en exil, nous aussi sommes confrontés à l'hostilité du monde. Mais nous n'avons pas à nous résigner. Nous n'avons pas à craindre. Car Dieu est le maître de l'histoire. Il nous donne la victoire sur le péché, sur l'enfer, sur la mort, grâce à Jésus. Et vous voyez le danger d'être résigné, le danger de tomber dans le défaitisme et la crainte, c'est de considérer les autres, de considérer le monde extérieur comme des menaces, comme des dangers, comme des obstacles peut-être pour notre vie. Et nous adoptons une perspective sur les autres qui n'est pas celle que Dieu voudrait que nous ayons. Nous nous replions sur nous-mêmes. Mais pourquoi, à votre avis, Dieu n'a-t-il pas retiré du monde ceux qui ont mis leur foi en Christ dès qu'ils ont cru ? Pourquoi est-ce qu'il nous laisse ici, dans ce monde, dans lequel nous avons beaucoup de souffrance, d'hostilité, d'opposition ? Eh bien, c'est parce que nous faisons partie de son plan, mes amis, pour apporter la bonne nouvelle du salut à ce monde qui en a tant besoin. Parce que vous aussi, autrefois, avant de placer votre foi en Christ, vous étiez de ce monde hostile et rebelle à Dieu et à son peuple. Allez dans toutes les nations, faites des disciples. Voilà la mission que Christ a donnée à son Église. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui, mes amis. Et voilà pourquoi on ne devrait pas succomber à la crainte et au défaitisme. Et même si l'ennemi devait mettre à mort notre corps, jamais il ne pourra mettre à mort notre âme qui est entre les mains de notre Sauveur pour toujours. Et à l'inverse du peuple juif, à l'époque d'Esther, nous ne combattons pas avec des épées d'acier, n'est-ce pas ? Mais nous combattons avec une autre épée, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, qui pénètre l'âme et qui a le pouvoir, grâce à l'esprit, de faire naître la foi. Nous avons la victoire grâce au Dieu de l'histoire. Et je voudrais conclure par ce verset de l'évangile de Luc au chapitre 12, verset 32, Luc 12, 32, où Jésus dit ceci à ses disciples. Jésus dit ceci à vous tous qui avez mis votre foi en lui. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre gloire parce que tu es un Dieu souverain, parce que rien n'est en dehors de ton contrôle. Et même si nous avons l'impression que les choses échappent à ton contrôle, même si nous avons l'impression que le monde va vers le chaos de plus en plus, toi, Seigneur, tu es aux commandes. Toi, Seigneur, tu diriges toutes choses, les grandes choses comme les petites choses. Et nous te remercions que en Christ, nous avons la vraie victoire. La victoire sur le péché, la victoire sur la mort. Nous te remercions parce que grâce à Christ, tu nous réconcilies avec toi, que tu fais de nous tes enfants et que tu nous donnes cette promesse de la vie éternelle dans ton royaume. Or, je te prie, Père, que tu nous accordes du zèle, que tu nous accordes du courage pour annoncer ta parole dans ce monde qui en a tant besoin. Aide-nous de voir ce monde non pas comme des ennemis, mais comme des perdus qui ont besoin de toi désespérément. Nous te prions, Seigneur, que tu nous viennes en aide afin que nous accomplissions la mission que notre Seigneur Jésus nous a donnée, d'aller dans les nations et de faire des disciples. Et tout cela à ta gloire. Amen.